Cinquième conférence de la journée du 8 juillet 1986.
Pourriez-vous traduire le péché contre l'Esprit Saint en langage métaphysique? On ne peut pas, puisque c'est justement un langage révélé. Alors on peut dire qu'on peut trouver des analogues. Mais le péché contre l'Esprit Saint, c'est révélé. C'est donc au niveau surnaturel. Mais je peux dire qu'il y a quelque chose d'analogue au niveau philosophique. Le péché contre la vérité. Le péché contre l'amour. Ce serait l'orgueil. L'orgueil serait le péché contre l'intelligence et le point de vue de capacité d'aimer. Pour les luthériens et les orthodoxes, le mal a dégradé l'être même de notre réalité vécue après la chute. Toute recherche métaphysique est donc bannie, d'où le primat de la révélation. D'où provient cette différence foncière? Une mauvaise anthropologie religieuse, point d'interrogation. C'est très vrai que ça, là, c'est un problème très important, cela. Que pour les luthériens, pour les orthodoxes aussi, mais peut-être pas tout à fait de la même manière, moins catégoriquement, il me semble. C'est toujours assez difficile de bien préciser ça, mais pour les luthériens, c'est très net. C'est que le péché, donc les conséquences du péché, le péché originel, a dégradé l'être même de notre réalité, notre nature et notre intelligence. C'est pour ça que l'intelligence humaine est incapable, après la chute, d'atteindre la vérité. Dans une incapacité. Et c'est pour ça qu'il ne peut plus y avoir de théologie. Il ne peut plus y avoir le lien entre l'intelligence et la foi. Lier l'intelligence et la foi, c'est lier ce qui en nous est source d'erreur avec le point de vue de la révélation. Donc c'est nécessairement faire quelque chose qui est faux. C'est en ce sens-là, vous voyez, que quelqu'un comme Karl Barth n'hésite pas de dire que l'analogie, c'est le diable. L'analogie étant justement le fruit de la philosophie qui essaie de chercher les notions analogiques. C'est en ce sens-là que toute recherche métaphysique est donc bannie, d'où le primat de la révélation. C'est très vrai. Alors, d'où provient cette différence foncière? Je crois qu'elle provient chez Luther d'une volonté d'exalter la foi. Un peu quelque chose d'analogue avec la position de l'ontologisme. Dans la position de Malebranche, qui est donc une position d'un ontologiste marquant. Malebranche étant un prêtre, confond le domaine de l'intelligence et le domaine de la foi et attribue à notre intelligence ce qui est vrai de la foi, c'est-à-dire qu'il considère que l'homme dans son intelligence voit Dieu. Tout acte est vu en référence avec Dieu. Comme pour le croyant. Pour le croyant, je regarde l'homme dans la sagesse de Dieu. Et je le regarde tout de suite donc comme une créature. L'homme est vu tout de suite comme une créature. Relative à Dieu. Laisser participer. C'est-à-dire l'exister. L'exister, participer. Et saisir immédiatement dans la lumière du Créateur. Quand je vois quelqu'un, je dis, oh, quelle belle créature. Bon, je dis ça au point de vue chrétien. Je dis ça dans la foi, mais je ne peux pas dire ça au point de vue philosophique. Au point de vue philosophique, je regarde l'homme en lui-même, pour lui-même. Je ne dis pas tout de suite, oh, quelle belle créature. Parce que pour pouvoir dire, oh, quelle belle créature, il faut que j'ai déjà saisi ce qu'est le Créateur. Et dans la lumière du Créateur, je saisis l'homme. Oui, la différence entre le regard de foi et le regard d'intelligence, ça c'est très important à bien comprendre. Dans la vision de Malebranche, l'homme est vu tout de suite dans la dépendance du Créateur. Il est vu relatif au Créateur. Il est vu donc comme dans une vision de foi. Et dans cette perspective de Malebranche, je ne peux définir l'homme que par Dieu. Je ne définis l'intelligence humaine que par l'intelligence divine. Je définis le fini que par l'infini. C'est ce qui, je crois, est à la source de toutes les idéologies athées qui veulent libérer l'homme de cette dépendance à l'égard du Créateur. Je crois que l'ontologisme existe à partir de Descartes, Malebranche, avec Malebranche, il s'épanouit. Il existe jusque dans l'hégélianisme. L'hégélianisme, c'est une philosophie chrétienne, comme on l'a dit ici, ceux qui ont suivi le cours du professeur Bourgeois. Il n'hésite pas à le dire. L'hégélianisme est une philosophie chrétienne, c'est-à-dire une philosophie qui ne peut pas se comprendre indépendamment de la foi. C'est dans la lumière de la foi qu'on peut le comprendre. Donc c'est un développement à l'intérieur de la foi. Donc l'ontologisme va jusqu'à Hegel. Alors la réaction violente, c'est de regarder l'homme pour lui-même. Parce que je dois redonner à l'homme toutes ses dimensions. L'homme ne se définit pas par rapport à Dieu. L'homme doit pouvoir se définir par rapport à lui-même, puisqu'il est, puisqu'il existe. Donc il a une autonomie. Oui, c'est très important de voir ces deux réactions. Alors, c'est à l'intérieur de cette position de l'ontologisme que je crois qu'on doit comprendre la position de Luther qui considère, lui, uniquement la foi. Oui, où vous ramenez la foi à l'intelligence, où vous ne regardez que la foi. Et ça revient au même, au point de vue de la connaissance. C'est plus honnête, Luther. Oui, c'est plus honnête. Ce qu'il dit que c'est la foi. Il considère que l'intelligence n'a rien à voir. Parce que l'intelligence est corrompue. Donc elle est toujours erronée. Donc il faut que l'intelligence, si on veut atteindre la vérité, que l'intelligence se taise. Et qu'il n'y ait que la foi. Alors, de cette manière, le point de vue peut-être très intéressant de regarder ces deux manières de préciser ce que c'est que le mal. Le regarder comme privation. Comme privation. C'est pas substantiellement bon. C'est plutôt substantiellement mauvais. Plutôt. Mais il y a quelque chose de fondamentalement bon. Et ça, je crois que c'est juste. C'est pas Freud qui est juste là. Non. Je crois que Thomas d'Aquin dit quelque chose de plus radical. Chacun d'entre nous, il y a une bonté fondamentale. Puis, il y a les qualités et les vertus. Les qualités naturelles. Nous avons tous des qualités naturelles par lesquelles nous sommes bons. Mais nous n'avons pas les mêmes qualités. Nous avons des qualités d'intelligence. Nous avons les qualités du cœur. Nous avons des qualités artistiques, des dispositions. Je la perds. Je vieillis. vieillesse, c'est un mal. Au point de vue biologique, pas au point de vue spirituel, mais au point de vue biologique, c'est un mal. On n'a plus la même acuité du regard, de l'œil. On entend mal. Tout ça, c'est les conséquences de la vieillesse. Les dispositions naturelles s'abîment un peu. C'est la vieillesse. C'est la maladie. Et quelquefois, voyez, alors les habitus acquis, il y a un mal aussi. Mais c'est très intéressant parce que à partir de là, je vais pouvoir vraiment graduer le mal. Il peut y avoir des manques. L'intelligence que j'avais beaucoup développée, soudainement, je ne sais pas pourquoi, ça s'arrête. Je tombe dans le coma. Il n'y a plus rien. Plus aucun signe d'intelligence. Plus aucun signe de volonté, d'amour, du cœur. La fatigue, sans aller jusqu'au coma, la fatigue. Je suis très très fatigué, j'arrive plus. L'intelligence est enrayée. On fait une petite opération, vous avez une petite opération très subtile, n'est-ce pas ? Ça se faisait quand je suis arrivé à Fribourg. Il y avait un chirurgien qui faisait ça en grand. On lui amenait le vieux grand-père, qui était de mauvaise humeur, qui était terrible. Alors si vous inquiétez pas. Alors il faisait une petite opération. Ça durait très peu de temps, 5 minutes. Et le vieux grand-père était revenu à l'âge de 5 ans. On arrêtait l'exercice de l'intelligence. On peut vous arrêter l'exercice de l'intelligence en faisant une piqûre, puis une petite opération. Rien du tout. Là, vous êtes. Ça, c'est une privation. C'est une privation. On ne vous a pas touché votre substance. On ne vous a pas touché votre âme. Puisque pour nous, notre substance, c'est notre âme. On n'a pas touché. On n'a pas touché notre âme spirituelle. On n'a pas touché ce qui est substantiel en nous, mais on a touché des dispositions. Ah, les dispositions, on peut. Alors on a touché ça, on avait un état de privation par ça. Il y a un mal. Donc, le mal par rapport à la perfection, il est à ce niveau-là. C'est le mal par rapport à la perfection. C'est le mal privatif. Il y a un mal de privation. J'enlève certaines dispositions. Les dispositions ne peuvent plus s'exercer comme avant. Donc j'arrête là. Et puis un mal beaucoup plus profond. C'est le mal beaucoup plus profond. C'est-à-dire un mal qui de fait touche l'ordre de l'homme vis-à-vis du bien, c'est-à-dire la bonté de l'homme. Alors, ce n'est plus directement une privation. C'est quelque chose qui va s'opposer à la bonté. Ce sont des opérations. Des opérations volontaires qui vont s'opposer à l'ordre vers la fin. Ces opérations volontaires, c'est la faute, sont des fautes. Et mettez l'orgueil. L'orgueil s'oppose directement à l'amitié. L'orgueil s'oppose directement à la contemplation. Alors là, je suis en face d'un mal, vous voyez, qui n'est plus du tout le même. Il y a le mal privatif. Alors c'est la suppression de certaines qualités. C'est ce que je vous disais ce matin par rapport à la perfection. Je n'ai plus mon intégrité. J'ai un bras en moins. L'exercice de mon intelligence, on l'a arrêté. Donc c'est le mal par rapport à l'intégrité. Mal privatif. C'est une privation. Et puis alors il y a un mal beaucoup plus profond. C'est le mal qui est contraire. Ah, c'est plus la privation. C'est le mal contraire à ce qui m'unit à ma faim. Je tourne le dos à la faim. À la place de tendre vers mon bien dans l'exercice de l'amour d'amitié. À la place de tendre vers mon bien par la contemplation. Je tourne le dos. Je me mets dans une position contraire. Je m'exalte. Dans l'orgueil. Je me tourne sur moi dans un égocentrisme. Il n'y a plus que moi. Je suis dans un état où je me regarde uniquement. Vous voyez, c'est tout à fait différent. On a le mal privatif, il y en a le mal contraire. Alors on va essayer de comprendre ça. Ça va nous aider toujours à mieux saisir ce que c'est que le mal. Vous voyez que là on touche deux aspects tout à fait différents du mal. J'allais dire un mal statique et un mal dynamique. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien statique et dynamique. C'est des chèvres. C'est tout à fait imaginatif. Ça fait rien. Ça réalise quelque chose. Le mal statique, c'est privatif. La privation, c'est très statique. C'est formel, si vous voulez. C'est le mal qui retire. Une détermination. Et le mal dynamique, c'est le mal contraire. Quand vous recevez un coup de poing, c'est pas statique. Le coup de poing, c'est quelque chose qui va contre vous. C'est un mal dynamique. C'est un mal qui de fait est en opposition, en contrariété vis-à-vis de l'euphorie, vis-à-vis de l'amitié. Vous approchez de quelqu'un amicalement, puis vous recevez une gifle, vous recevez un coup de poing. C'est pas seulement privatif, c'est quelque chose de tout à fait différent. Il y a une espèce de contrariété. Alors pour bien comprendre ça, je vais rappeler, parce que autrement on voit pas très très bien, je vais vous rappeler, je peux pas vous l'expliquer plus, mais c'est une chose très importante, c'est les oppositions que donne le vieil Aristote, que saint Thomas a repris, les oppositions, parce que on est dans le domaine des oppositions. Avec le mal, on est dans le domaine des oppositions. Alors, il y a différents types d'oppositions, selon Aristote. Mais ce n'est pas selon Aristote, vous n'avez qu'à les redécouvrir. Et vous trouverez ça tout de suite. Et depuis Aristote, on n'en a pas découvert d'autres. On avait des confusions depuis Aristote. Mais depuis Aristote, on n'a pas redécouvert ces différentes oppositions. Il y a l'opposition au niveau de l'être, de ce qui est. Être, non-être. Être, non-être, c'est la fameuse opposition de contradiction. Quand vous dites ceci est, ceci n'est pas, hein, c'est une contradiction. La contradiction, c'est affirmation, négation. Et la négation peut être totale et supprimer tout ce qu'on affirme. Donc c'est la négation la plus forte. La négation la plus forte est au niveau de l'être. c'est la privation. La privation, c'est le non-avoir, c'est au niveau de la forme. J'ai telle qualité, je n'ai pas telle qualité. J'ai deux bras, c'est de l'avoir. C'est de l'être, oui, si vous voulez, mais c'est de l'avoir, tout ça fait partie de ma structure, c'est au niveau de la forme. Donc l'opposition au niveau de la forme. Puis vous avez une autre opposition, qui est une opposition dans la contrariété. Je ne mets pas actuellement tout, c'est l'opposition de la contrariété. C'est lorsqu'il s'agit du blanc et du noir. Yeah. Le mal est une privation. J'ai dit, au niveau de la contradiction, pas de mal, au sens strict. Ne pas exister, être dans le néant. Ben oui, il n'existe pas, et puis tout. On n'en parle pas. C'est rien. Donc c'est pas le mal. Non. Le mal n'existe pas dans le néant. Cherchez le bien, vous le trouverez pas. Le néant, il n'y a pas de mal. Le mal existe au niveau privation. Ah oui, au niveau de la voix. Et le mal existe au niveau des activités contraires dans l'ordre du devenir. Le mal existe-t-il au niveau relatif ? Non. Donc je vois deux zones sur lesquelles le mal va exister. Je retrouve toujours ces deux aspects. C'est quand même très curieux. Donc petit à petit, on arrive à saisir la structure du mal dans deux niveaux tout à fait différents. Et nous l'avons vu ce matin, nous le reprenons par le point de vue du bien et nous le reprenons par le point de vue des oppositions. Et nous retrouvons toujours la même chose. Intéressant à saisir puisque c'est deux points de vue tout à fait différents. Je précise encore, quand il s'agit de ces oppositions, l'opposition de contradiction, elle est radicale, il n'y a pas de sujet. L'opposition de privation, il y a toujours un sujet. Elle se réalise toujours dans un sujet, avoir, puisque avoir est relatif à un être qui a. Et ne pas avoir, c'est relativement encore un sujet qui est privé de l'avoir. Les contraires existent toujours dans un sujet. Ça existe toujours dans un sujet. Un sujet qui possède et qui peut posséder, du moins, successivement, les deux contraires, au niveau du devenir. Et l'amitié, ou la relation, l'opposition relative, implique toujours deux sujets. Il y a deux sujets. Tandis qu'au contraire, ici, un sujet, un, et puis là, rien du tout. Mais, autrement dit, ceci, c'est pour essayer de comprendre la profondeur différente de ces oppositions. L'opposition de contradiction, elle supprime tout. Être, non-être. Ça, c'est l'opposition la plus farouche qui soit. On néantise, hein, dans un langage sartrien, on dirait qu'on néantise. Si je pouvais vous néantiser, je serais tranquille, là. Regardez. De temps en temps, on a envie de néantiser quelqu'un qui est là en face de nous. De soi, on n'a pas le pouvoir de néantiser. Je le pourrais, mais sa sagesse l'interdit. Heureusement. Néantiser quelqu'un, c'est le supprimer. La baguette magique, néantiser. En réalité, vous voyez, néantiser, c'est essayer. C'est ça qui est très curieux, du reste, quand on pense. Parce que néantiser, est-ce que ça signifie quelque chose ? Sartre emploie ce mot. Est-ce que c'est pas un peu mythique ? Si je réfléchis bien, qu'est-ce que ça veut dire néantiser ? Le néant, je le constate, mais je n'ai jamais créé le néant. Et vous non plus. Vous êtes obligé de respecter ce qui existe. Vous pouvez l'abîmer. Il y a quelque chose qui reste. La substance, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, l'aspect substantiel, la substance, là. Ce qu'il y a de fondamental dans un être, et vous le respectez. Vous ne pouvez pas le néantiser. Oh, doucement, du reste, hein, parce que si les créatures pouvaient se néantiser entre elles, ce serait comme le combat des deux chiens dans la reine. Au terme, il ne reste plus que les deux queues. N'est-ce pas ? C'est ça exactement ça. Si vous voulez néantiser, parce qu'on se néantiserait le plus vite possible. Et celui qui commencerait à néantiser gagnerait. Alors c'est très curieux de parler de la néantisation. Est-ce que c'est pas la confusion entre l'opposition de contradiction et l'opposition des contraires ? En réalité, néantiser ne signifie rien. On l'emploie parce que Sartre l'a employé. Là, vous dites néantiser. Mais en réalité, si vous pensez vraiment néantiser, vous ne pouvez pas le penser. Ça signifie rien. Parce que ce serait rendre actif ce qui, par définition, n'est rien. On ne peut pas néantiser. Annihiler quelque chose, non, papa. Il n'y a que Dieu qui pourrait le faire. Et Dieu ne fait pas. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que le Créateur qui pose l'être, qui pourrait le supprimer. Oui. Et en néantisant, Sartre se met à la place de Dieu. Et lui, néantise. Tandis que Dieu ne fait pas. Parce que Dieu a plus de respect vis-à-vis de l'être que Sartre par rapport à l'être. Alors il néantise, il veut néantiser. Et néantiser, c'est la confusion entre l'opposition de contradiction et l'opposition des contraires. C'est intéressant parce que, oui, on joue sur les mots. Quand un philosophe va employer un mot, on répète. Mais est-ce que ce mot a une signification ? Si ce mot n'a pas de signification, il ne faut pas le répéter. Il faut savoir, non, mais non, ça ne signifie rien du tout de néantiser. Vous n'avez jamais néantisé. Essayez de néantiser. Vous verrez, vous ne pouvez pas. Il faudra avoir un pouvoir sur l'être pour néantiser. On ne peut pas néantiser. Mais je peux m'opposer. Ah oui, je peux m'opposer. Quelqu'un dit quelque chose, ben je peux m'opposer à celui-là et dire, moi je dis juste l'inverse. Alors c'est où la contradiction ? Où c'est la privation ? Où c'est la contrariété ? La plupart du temps, c'est la contrariété. Donc, ceci, c'est pour vous faire comprendre que ces oppositions, c'est très important le jeu de ces oppositions. C'est la manière dont nous nous opposons, dont on divise l'être, l'avoir, la forme, le devenir, et deux réalités qui sont relatives par rapport à l'autre. Voilà toutes les grandes oppositions qui peuvent exister. Alors, je reviens au bien, je reviens au mal, problème du mal. Je dis le mal. Il va être une privation à l'égard d'une qualité, à l'égard d'une perfection, à l'égard d'habitus acquis, à l'égard de vertu. Bien perdre une vertu acquise. La vertu de tempérance, par exemple. Vous avez acquis la vertu de tempérance pendant un certain temps. Et puis, en raison d'une fatigue, vous vous mettez à boire des faux mignons. Au bout d'un certain temps, vous perdez votre vertu de tempérance. Et vous allez acquérir un vice opposé, l'intempérance. Dès que vous voyez une bouteille, impossible de vous tenir, il faut qu'elle soit dans votre poche. Et de la poche, elle va vite passer un peu plus haut. N'est-ce pas ? Parce que c'est... s'oppose au bien en supprimant toutes les qualités, toutes les perfections. C'est le mal qui s'oppose à la perfection. C'est le mal privatif. Où je suis en face d'un mal qui s'oppose à une activité bonne, qui me finalise. Je suis en face d'un mal positif. Je suis en face d'un mal positif, qui est une opération mauvaise, vicieuse, qui me dégrade et qui m'empêche d'atteindre ma béatitude, qui m'empêche de me finaliser. Je suis en face d'une opération pernicieuse, vicieuse, d'une faute. Voyez donc, et ça c'est très important à saisir au plan de vue philosophique, je vois donc un mal volontaire, positif, et un mal qui est un fait. Le mal privatif est un fait. Ça vient, on cherchera après, c'est un fait. Puisque les cheveux, c'est quand même quelque chose qui fait partie de la dignité de la personne. Je sais bien, perdre ses cheveux, ça vous donne alors quelque chose encore plus majestueux. Très bien, on le dit pour les autres, mais pas pour soi. Alors, c'est une privation. D'où vient cette privation ? Elle peut avoir 36 causes, on ne sait pas très bien. Alors, vous voyez, est-ce que je ne rejoins pas là ? Je fais simplement le parallélisme. Je vous disais hier au soir, en regardant la Bible, que j'étais tout de suite en face du mal orgueil et du mal peine. C'est curieux, je retrouve ici, vous voyez, le mal faute. C'est dans l'ordre de l'opposition de contrariété. Et le mal privatif, c'est la peine. La peine, c'est quoi ? On vous enlève votre petit gâteau. Tu n'as pas été sage. Eh bien, tu n'auras pas de dessert. C'est la peine. C'est un mal privatif. Tu n'auras pas de désert. Tandis qu'au contraire, le mal opposé dans le point de vue de la faute, c'est le mal d'orgueil, il est volontaire celui-là. Et la privation, elle vous enlève quelque chose. Elle vous enlève une détermination. Elle vous enlève une qualité. En punissant, on enlève quelque chose. Le mal faute, c'est pas simplement privatif, c'est quelque chose d'actif. Là, vous commencez à comprendre comment il peut y avoir des forces du mal. Pas au niveau mal privatif, non. Au niveau du mal opposition au bien, au niveau du mal qui implique une opération mauvaise, un mal volontaire et un mal actif qui peut aller très loin. Alors on verra jusqu'où peut aller ce mal. On retrouvera Luther, on retrouvera jusqu'où peut aller ce mal, jusqu'où peut aller la privation. Je crois que là, nous sommes bien en face de deux manières, de deux modalités du mal. Le mal privatif, le mal faute. Vous allez me dire, c'est curieux. Alors maintenant, je me pose la question, est-ce que je peux ramener ces deux formes du mal à un seul ? Parce que ça, je crois que tous, on est bien obligés de le constater. mal privatif et le mal dynamique. Le mal au niveau de la forme, au niveau de la perfection, et le mal au niveau de l'activité volontaire. Dans l'homme, il y a deux possibilités du mal. Alors, question que je me pose, à partir de ces deux formes, est-ce qu'il y a quelque chose de commun dans ces deux formes? Est-ce que je peux ramener ces deux formes, on dirait dans un langage philosophique précis, à la manière de saint Thomas? Puis-je saisir la ratio mali? Pour ceux qui ne connaissent pas le latin, je l'écris. Y a que ça c'est entre parenthèses intéressant, toujours par rapport à l'homme. Le philosophe regarde toujours l'homme. Le philosophe, toute donnée philosophique est toujours reliée à l'homme, d'une façon ou d'une autre. Je ne peux pas regarder uniquement l'univers en tant que philosophe. Je laisse ça aux mathématiciens. Le philosophe regarde l'univers par rapport à l'homme. Il regarde le vivant par rapport à l'homme. L'homme est toujours présent dans son regard philosophique. Ça, c'est très très important. C'est ce qui caractérise le regard philosophique. Donc, si je parle du mal, je parle par rapport à l'homme. Et je vois que tout de suite, par rapport à l'homme, il y a deux aspects du mal. Alors, je me pose la question, est-ce que ces deux aspects du mal ont-ils quelque chose de commun ? Y a-t-il quelque chose de commun entre le mal privatif et le mal volontaire ? Ou est-ce que, non, je suis en face d'une dualité irréductible ? Ça, je vous demande d'y réfléchir. Question très importante. Autrement dit, je reviens toujours à cette question. Y a-t-il une unité dans le mal ? Ou est-ce que le mal implique nécessairement la dualité ? Y a-t-il nécessairement deux modalités du mal, irréductibles l'une par rapport à l'autre ? Ou y a-t-il quelque chose de commun ? Le quelque chose de commun, évidemment, si je vais très loin, c'est la négation. Je pourrais dire qu'il y a la négation. Il y a un primat de négation. C'est, je crois, la seule chose que je pourrais dire de commun. La privation, c'est la négation. Et le point de vue de l'opération mauvaise, c'est encore une certaine négation impliquée dans une opération. Il y a un désordre. Dans toute opération volontaire, il y a un désordre. S'il y a un désordre, il y a donc une négation. Donc il y a une négation présente, la ratio mali, donc la raison du mal, ce serait donc un primat de la négation. Ce serait pas si mal. La négation devient première. Oui, si j'imagine un monde mauvais, mis d'étiquette à ce moment-là. nécessaire. Mais c'est devenu tellement conventionnel que si dans un repas il n'y a pas de dessert, on dit, mais tiens, c'est curieux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, c'est le temps du carême. Ah oui, oui, mais alors ça s'explique par le carême. C'est tellement conventionnel, c'est vrai. Privation. On est privé d'un bonbon. On est privé de la confiture. Privation. Le mal privatif. Puis, nous avons tous l'expérience de poussée d'orgueil. Péché dominant de chacun d'entre nous. Tout à fait inutile de faire une retraite pour découvrir son péché dominant. Moi, je vous le dis tout de suite. C'est l'orgueil. Si vous ne l'avez pas encore découvert, ça prouve que ça en avait une certaine dose. Si vous l'avez découvert, ça prouve qu'à certains moments, à certains moments, à marée basse, vous voyez qu'en effet, il y a des poussées d'orgueil. Mais celui qui ne l'a pas encore découvert, ça prouve qu'il est complètement dedans. Ces deux modalités du mal. Alors je me pose la question, y a-t-il un ordre? Ils sont irréductibles. Y a-t-il un ordre? Selon le petit tableau, hein, selon le petit tableau des oppositions, l'opposition privative est une opposition plus forte que l'opposition des contraires. La négation que dans les contraires. Donc, le mal privatif est plus radical que le mal des contraires. Logiquement. Et pourtant, le mal volontaire touche l'esprit. Donc il va bien plus loin. C'est le mal de l'esprit. C'est le mal de celui qui dit « non serviable, je ne servirai pas, je m'opposerai ». Alors ça, évidemment, je ne peux pas le dire au point de vue philosophique, mais selon toutes les traditions religieuses, l'orgueil